Bah du coup alors c'est quoi qui parle de quoi? Enfin on, en fait on discute quoi. Il y a pas de
tout à fait.
Ouais voilà. OK.
Une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect, ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur, édition Blockbuster. Nous sommes entourés de dragons, de châteaux, d'anneaux et de Stéphane, notre elfe.
Non, oh, c'est gentil, merci.
L'orque Hugo.
Ah, c'est pas du tout mon gabarit, mais ça...
Fais gaffe à ce que tu vas dire.
Et le roi Maxime.
Ah. J'ai cru que t'allais dire le nom.
Non. Alors avons-nous le retour des séries fédératrices pour l'interrogation. House of the Dragon, préquel de Game of Thrones, est enfin arrivé sur les écrans d'OCS. Les Anneaux de Pouvoir, série préquel du Seigneur des Anneaux, est sur Prime. On va tirer un premier bilan de ces deux séries. On commence par House of the Dragon. Stéphane, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que toi déjà, oui. Game of Thrones, pour toi, qu'est-ce que ça représente?
C'était une grande chance pour la fantasy à la télévision et in fine c'était une balle dans le pied quoi.
Oh, comme méchant.
Mais non, bah parce que c'était mauvais, que ça c'était non. La mauvaise représentation de la fantasy, qu'il y avait beaucoup mieux à faire non. Et que voilà quoi. Enfin, c'était peut-être pas la saga adaptée, mais bon après c'était sympathique pendant les 4 premières saisons ou les 5 sur 8.
Franchement, je te trouve dur. C'était quand même une très bonne série. C'est sûr que.
Enlève le trait. C'était une bonne série. Okay. Je te l'accorde.
On enlève le trait parce qu'elle elle varie en qualité. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais n'empêche, c'est quand même la dernière série qui a réussi à rassembler autant de monde. Les intrigues, certes, il y avait des trucs qui étaient what the fuck et on comprend pas trop, surtout dans les dernières saisons. Mais en vrai, ça se suivait quand même super bien. Enfin,
j'ai pas dit le contraire. Sauf que le problème, c'est que. Alors déjà, je vois pas pourquoi une série fédératrice, il y avait trois campagnes qui la regardaient, mais.
Game of Thrones?
Ouais, on est d'accord, 20 millions sur 7-8 milliards, donc voilà.
Oh, mais... la mauvaise séquille.
Oh, ouais. C'est pas possible. Je vais la faire à l'Amazon, ok? Je vais être de mauvaise foi tout le temps sur les chiffres aujourd'hui.
Alors, okay. Si on écoute Stéphane, la seule série fédératrice, c'est NCIS. Génial.
Eh ben ça, c'est fédérateur.
Non, ça, c'est chiant.
C'est encore moins regardé. Bon, c'est pas grave. Poursuivons, allez. Allez, House of the Dragon, Stéphane.
Je suis mitigé. Le problème, c'est que on voit que c'est une série préquelle et que en fait, ça se démarque beaucoup, non pas assez, j'allais dire beaucoup trop peu, mais pas assez de la série de Game of Thrones, quoi. Donc c'est, alors je crois que la pire décision d'ailleurs de base, c'est d'avoir repris le même générique.
Oui, c'est vrai, j'étais surpris. Ouais.
Ah, oui, non, mais c'est le truc le plus con qu'ils aient pu faire. D'avoir repris les Targaryens aussi, parce que on a fait un peu le tour et ils ne racontent pas grand-chose de neuf, même si ça se passe une centaine d'années. Non. 200 ans
Oui, un truc comme ça.
7000 ans, c'est dans l'autre.
Ouais.
Non, ça se passe quelques années avant, centenaire avant, et puis non, franchement, c'est sympathique à regarder. On découvre des acteurs, c'est bien. Voilà, Millie Alcock, c'est très bien. Moi, je vais la suivre, voilà. Mais sinon...
Mais on ne nous a pas vendu des acteurs qui ne sont pas encore dans la série.
Ils arrivent lundi, là.
Ils arrivent lundi, oui. Olivia Cooke, elle arrive dans la deuxième partie de la saison.
Parce que je regardais d'un œil et je voyais la liste et je me dis ok, il y a tout ça, donc ça va se passer peut-être sur deux temporalités, mais non en fait.
Si, en vrai, il va y avoir un saut temporel.
C'est vrai qu'ils font plusieurs. Ah d'accord, oui, il va y avoir un saut temporel, mais c'est pas parallèle quoi.
Oui, c'est pas parallèle.
Oui, c'est vrai que ça avance très vite. Hein. Enfin, ça avance très
oui,
vite.
Mais ça fait. Là, ils nous avaient dit que la première saison se déroulait sur 28 ans. Donc, tiens, maintenant qu'on en parle, c'est bien le plus gros problème de la série. C'est qu'il y a des ellipses narratives qui sont violente entre chaque épisode et ça aide pas à aimer les personnages parce qu'ils sont un peu et complètement erratiques
ni à développer des intrigues cohérentes.
Je sais pas si ça vous a fait cet effet là, mais moi j'ai l'impression qu'il y a pas de personnages. Ouais, on en suit 3 ou 4 et autour ils sont tous ultra insipides alors que Game of Thrones il y en avait quand même énormément et ils ont quand même réussi à les installer plus ou moins bien tous. Là franchement à part les Targaryens, j'ai l'impression qu'il y a personne, les autres ils n'existent pas, donc je me dis franchement si déjà,
c'est le
déjà
c'est le problème
que je les aime
ellipses.
Pas non mais par exemple celle que t'aimes bien la personnage moi Rhaenyra, je déteste son personnage franchement je la supporte pas.
Tu détestes qui, le personnage ou l'actrice?
Le personnage, l'actrice je la trouve moyenne
parce que moi,
pas
je
mauvaise
dois... ah oui ben voilà ouais, ok.
Non, puis je suis d'accord avec toi aussi quand tu dis qu'il n'y a pas vraiment de sang neuf, on retrouve le même générique, c'est quand même une facilité, je pensais pas qu'ils allaient tomber dedans. Enfin, je trouve que en termes de décision artistique pour faire vivre une série, c'est débile. Et ouais, je sais pas, j'ai l'impression de revoir les mêmes personnages avec le même truc un peu what the fuck entre bah du coup l'oncle et la nièce. Enfin, ouais, non, je suis pas convaincu. Après, ça se suit.
Ouais, mais après, c'est un peu comme disait Twitter. Alors Twitter entre gros guillemets, hein. Mais c'est un peu le soap opéra de luxe de HBO, quoi. Et du coup, le fait d'avoir resserré toute l'intrigue sur les Targaryens, bah en fait, ça resserre l'intrigue sur bah les jeux de pouvoir, les politiques internes de famille, tu vois. Et du coup, ça manque de ce petit truc. On te parle juste d'une prophétie, tu vois. La fameuse prophétie là dont on nous parle depuis le début là, mais il y a pas ce petit truc, cette ouverture vers le monde extérieur qui pourrait développer mythologie, tu vois. Mais c'est pas le but de la série en fait.
Ce qui était sympa, c'était le truc avec le mec là, avec le crabe là, le méchant là, qui avait, c'était plutôt sympathique ça, tu vois. Et je pensais qu'ils allaient aller miser dessus, mais en fait non.
Ouais, ils ont du mal à ouvrir leur série en fait. Enfin.
Ben oui, mais comme tu dis, en fait, ils sont concentrés sur les trois pauvres Targaryens qu'on a, et ils sont tous consanguins. Merci quoi. Enfin.
Ils essayent de nous mettre des enjeux en plus où vraiment on en a rien à garder.
Enfin... Est-ce qu'elle va coucher avec lui? Elle va pas coucher avec lui.
C'est vrai que ça reste assez sage. Enfin, j'ai pas
sage.
Non, mais je veux dire sage au niveau du degré des intrigues quoi. C'est pas.
Voilà. Non, mais par exemple, moi, dans le dernier épisode, ce qui m'a profondément ennuyé, on a tout le mariage et tout, donc il y a des trucs qui sont intéressants, notamment la reine qui s'impose, blablabla. Je trouvais que c'était assez subtil et on voit les personnages depuis quelques épisodes et on la voit s'affirmer, donc ça, je me suis dit, ah ça, vraiment, on a un vrai développement. Et de l'autre, il nous tue un autre personnage, il y a cette scène de bataille où je crois que c'est l'amant de...
Oui, c'est les amants qui se battent, voilà. C'est les paramours.
C'est ça. Et l'autre, quand il meurt, on est censé avoir de la peine, ils nous sortent les violons, tout ça. J'en avais strictement rien à cirer, on l'a vu 30 secondes, ce mec.
Bah, c'est surtout que la décision de Sir Crestin, ou Sir Crestin, je sais plus comment c'est, Crestin, ou je sais pas quoi, mais elle est complètement débile. Enfin, ouais. Le mec, il n'a pas de développement de personnage, et en 10 minutes, il faut qu'il passe de tout au tout, quoi. Enfin, c'est
un chevalier qui était à cheval sur l'honneur, sur le fait qu'il avait brisé les règles et tout. Et là, d'un coup, paf.
C'était dit qu'il devait pas coucher, parce que moi, j'avais pas compris qu'il devait pas coucher, qu'il devait être vierge, hein, mais.
Je sais pas. Il devait peut-être pas coucher avec la personne qui protégeait, mais.
Ah non, il à un moment donné, donc quand il dit, il se balance tous les secrets, là, je peux qui, là, à la reine. Il dit oui, ben en fait, je devais rester vierge et je suis pas resté vierge parce que c'était ma mission et voilà. Mais d'où tu nous l'apprends 10 minutes ou même pas après dans l'épisode après avoir couché avec ta meuf quoi.
C'est en plus c'est absolument pas dans l'esprit Game of Thrones son grand discours sur je t'aime, ne te marie pas et tout. Elle est princesse, elle est amenée à être reine, t'es dans la série Game of Thrones. Enfin, je trouve que comme enjeu, c'est complètement débile. On sait très bien que ça va pas se passer.
Mais est-ce que Got commençait pas aussi doucement?
Non, pas autant. Non. Got, c'était dans l'intrigue, oui, peut-être beaucoup plus doucement. On a, comme disait Stéphane tout à l'heure, il y a des ellipses violentes, donc ça avance très très vite. Mais dans Game of Thrones, c'était les personnages, dans la première saison, c'était vraiment sur les personnages. L'intrigue en elle-même, elle était quand même assez basique, assez simple.
Mais t'avais le cold open du premier épisode, c'était les White Walkers direct, tu vois. Et du coup, et en fait, t'avais ce truc, et après, hop, ça va sur à King's Landing et tout, mais ouais, t'avais cette première scène qui te prenait direct, et après, forcément, bah, ça développe un peu tous les personnages. T'as pas vraiment ce hook, comme disent les Américains, où tu te dis, bon, bah, tu suis cette famille, mais en fait, t'es pas vraiment investi, quoi.
Et surtout que moi, je me demande à chaque épisode où est-ce que ça va aller in fine.
Oui, il n'y a pas d'enjeu.
Parce que voilà, il n'y a pas d'enjeu et les enjeux sont vraiment sur 4 personnages grand max. On se doute que soit ils ne vont pas mourir parce que vraiment, si ça reste que sur ces personnages.
Ouais, enfin, sauf Viserys, quoi. Mais bon, après.
Mais en vrai, je trouve que je me sens étriqué en regardant la série. Je me dis, franchement, en plus, ils avaient déjà installé un univers. Donc, on s'attendait à retrouver des codes de cet univers. Et Hugo avait raison tout à l'heure. On voit pas le reste du monde. Alors que, franchement, ils ont tellement de trucs à explorer. Et ils ont quand même une page blanche qui n'est pas, voilà, ils ont installé un univers, mais ils peuvent en faire ce qu'ils veulent.
Le problème, c'est que ça a été renouvelé pour une saison 2 et que les personnages vont vieillir, disparaître. Enfin, il y en a au moins deux qui vont crever. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter en saison 2, quoi? Ouais. On en est déjà à l'épisode 5. Moi, je suis déjà en train de me dire, mais comment ça peut tenir la route ?
Ouais, déjà, ça ne tient pas nécessairement la route tout de suite. Donc,
Sur la durée.
Oui.
Mais là, il faut se dire que là, la série, elle commence maintenant, en fait. Parce que c'est là où il y a la vraie... en vrai, la série, c'est l'histoire de la scission, de la guerre interne de la maison Targaryen, quoi. Et c'est avec cette fameuse robe verte, là. Mmh. Bah, en fait, ça, c'est le trigger de toute la série, du principe même de la série. Donc, t'as eu 5 épisodes de prologue, quoi.
Ouais, mais d'où t'as vu une saison 1 qui commence à l'épisode 5 sur 10 épisodes ?
Ouais, ah oui, bah, je suis d'accord.
Ouais, ça, c'est compliqué, quand même.
Surtout qu'en plus, on va avoir un changement de casting et les gens sont déjà en train de râler, de dire « Ah, oh, mais en fait, on les aimait bien. » Et que les gens à HBO, ils se disent « Ah, mais en fait, ils les aiment bien, donc on va peut-être les ramener en saison 2 alors que c'était pas prévu. » Non, mais c'est complètement con. Enfin, il n'y a rien qui va.
Toi, par exemple, ils n'utilisent même pas leur dragon. Enfin, ils sont là pour faire joli, mais au-delà de ça, il n'y a rien autour de ça, alors que c'était quand même un enjeu dans les premières saisons de Game of Thrones, enfin, même dans les dernières. Je sais pas,
Ouais. Et ils ont mis, et sur la promo, ils ont quand même dit, vous allez voir plein de dragons, non, mais le pire, c'est pour te dire à quel point ils arrivent même pas à se détacher de Game of Thrones, ils ont dit, ah, là, il va y avoir le mariage, et attention, hein, ça va être comme le Red Wedding.
Mais est-ce que c'est pas ça, justement, qui alourdit un petit peu la communication autour de la série, c'est-à-dire de tout miser sur l'héritage, en fait, et de décevoir dans tous les points, quoi.
Ben, HBO, ils sont en fond dessus, donc, je sais pas comment, je ne sais pas quel est le cahier des charges. On leur a dit, bon, ben voilà, les gars, il faut faire comme Game of Thrones, mais sans les personnages de Game of Thrones. C'est sûrement ça qu'on leur a dit, hein, parce que sinon, je ne vois pas... on a laissé aucune liberté aux scénaristes.
Ou alors, tu mises sur l'héritage de la série, mais d'une autre manière. Pas sur l'héritage comme. Enfin, ça ne marche plus. C'est pas possible. Tu n'as plus l'élément de surprise. Et en plus,
surtout quand on te dit, hey, tiens, le mariage, ça va être comme le Red Wedding. Tu dis, oui, bon, mais il y a des gens qui ont crevé. Ben oui, ben il y a des gens qui ont crevé.
Et
ben,
du coup, tu finis par t'en foutre royalement parce que zéro enjeu. Et en plus, on t'a limite spoilé sur ce qui allait se passer.
Ah ben,
que
ça
allait
clairement.
Pour moi, il n'y a aucun enjeu. Et l'héritage de la série pouvait être ailleurs. Enfin, mauvais. Enfin, pas mauvais, mais ils sont
après,
mauvais.
Perso, moi, je retiens, ça reste quand même... Enfin, moi, j'ai toujours apprécié les dialogues de Game of Thrones. En fait, je trouve que c'était toujours le matériel de base. Il transpirait dans la série. Et du coup, les confrontations, les enjeux politiques, on va dire, transpiraient toujours dans les dialogues. Donc là, je trouve qu'il y a quelques scènes, quelques joutes verbales, on va dire, qui sont quand même toujours de la qualité de God, tu vois. Et j'apprécie toujours cette qualité d'écriture et moi, c'est ce qui me plaît toujours dans Game of Thrones, quoi. Et dans House of Dragon, du coup.
Et tu trouves que c'est bien dialogué ?
Oui, pour le coup, moi, je trouve que c'est toujours bien dialogué. Ouais. Après, oui, sauf certaines scènes, notamment avec Christin, là, qui lui dit de pas se marier.
Ouais,
mais donc, après, c'est dans la scène en elle-même, mais il y a quand même, c'est toujours assez fin dans l'écriture dialogue, en tout cas.
La moitié de l'épisode 5, là, à chaque fois qu'on voit une scène avec Daemon, il ne parle pas. Ben, je trouvais que c'était là où il était le meilleur.
D'ailleurs, parlons-en, finissons-en sur Matt Smith, hein, parce que... Est-ce que... moi, je trouve qu'il en fait des caisses, mais c'est le personnage qui fait ça, en fait.
Ouais, moi, je l'aime bien dans la série. Je trouve que, oui, c'est le personnage qui demande à en faire des caisses et que s'il n'en faisait pas des caisses, ce serait quand même assez terne en termes de jeu dans la série. Enfin, après, ça, c'est mon avis.
Et le charisme, c'est vrai qu'il en a un petit peu quand même.
Ouais, il arrive à incarner ses personnages à chaque fois.
C'est parce qu'il est moche.
Mais non, il est pas moche, ça va pas, toi. Enfin, moi, il dort pas dans la baignoire. Non, moi, il dort pas dans la baignoire.
Bah, t'as pas de baignoire aussi.
C'est vrai, j'ai pas de baignoire. Et du coup. Non, mais pour rebondir sur ce qu'il disait Hugo, c'est vrai que parfois, sur des petits points, ils restent quand même super. Ils arrivent quand même à écrire quelques scènes qui accrochent. Moi, la scène de la robe dans le dernier épisode, je l'ai trouvée super.
Alors laquelle ? Parce que au final,
la robe verte. Quand la reine arrive avec la robe verte, j'avais pas tout compris en fait, et j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire, les enjeux derrière, et ce truc-là.
Pourtant, ils te sont expliqués, au moins. Enfin, ils les ont soulignés quand même, hein, mais bon.
Après, oui, c'est vrai que le dialogue dit, ouais, vous savez de quelle couleur se signale tout ça.
Oui, mais enfin, je sais pas. Je trouve que vu qu'on n'a pas, bougé des Targaryens. De mettre un ennemi de l'intérieur mais avec des conséquences qui vont venir de l'extérieur, enfin j'avais du mal à accoucher de mon idée, mais je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment intelligent de la manière dont c'était mis en scène. Et oui,
je suis d'accord, encore une fois, une scène silencieuse, quand tu vis la même, quand la reine arrive et qu'elle interrompt le discours et qu'elle vient se placer, j'ai trouvé exceptionnel.
Ah, mais cette scène là dont je veux parler.
Ah ben oui, mais moi, c'est pas le discours. Pour le coup, c'est le fait qu'elle soit silencieuse et qu'elle ait interprété
Voilà. Ouais. En fait, c'est fou quand même d'avoir une série où, en fait, je souhaite qu'ils ferment tous leur gueule et qu'ils transpirent quelque chose, quoi. Parce que, au moins, on a ressenti les enjeux. Comme Diamond qui se retrouve face à sa femme. Il dit rien, il fait flipper tout le monde et même sa femme. Et ben, voilà, ça a fait quelque chose, quoi. Mais alors que, quand il parle tout le temps, moi, je trouve ça dur. Hein, mais ouais. Surtout, Sir Christin, c'est le sujet qui a les pires dialogues.
Bah, donc, du coup, passons aux anneaux de pouvoir qui fait, finalement, avec son monde ouvert, bah, voilà, ça rend un peu House of the Dragon un peu palichon. Alors, les anneaux de pouvoir, Hugo, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, et qu'est-ce que ça représente pour toi, déjà, le Seigneur des Anneaux?
Alors, moi, je suis conquis, déjà, parce que... Enfin, conquis. Normalement, je suis pré-conquis. C'est-à-dire que Tolkien, voilà, je suis assez fan des livres et très, très fan des... Et très très fan des films et du coup du monde de la Terre du Milieu, moi je suis je connais pas par cœur, mais je suis très aficionados depuis 20 ans, quoi. Donc j'attendais la série pas de pied ferme, mais j'attendais la série déjà pour l'enjeu marketing que c'était pour Prime et Amazon, enfin voilà, et aussi parce que bah là c'est la première fois que je voyais que j'allais voir l'univers de Tolkien sur ce médium, tu vois. Donc j'avais une grosse attente, mais j'avais aussi pas mal de craintes, parce qu'en fait, on a forcément en tête les personnages des films, l'ambiance des films, la musique des films. Voilà, forcément, il faut s'extraper un peu de toutes ces images. Moi, j'ai été conquis par les deux premiers épisodes. Bah, déjà parce que c'est Bayona, J.A. Bayona qui s'en occupe, qui avait fait le Jurassic, le seul Jurassic World qui compte.
C'est un autre débat.
Tom, il est encore traumatisé, voilà.
Non, ça c'est bon.
Bon. Qui avait fait le seul Jurassic World qui compte et The Impossible et aussi quelques minutes après minuit surtout. Et en fait la mise en scène déjà est pas trop tape à l'œil, c'est-à-dire elle reste assez minimaliste, mais pourtant je trouve que elle est élégante, et la puissance des images est là, quoi. Ils n'en font pas trop, donc ça, visuellement déjà, en fait, tu prends ta claque déjà. C'est un peu comme quand on regarde des fondations il y a quelques mois là. Ouais. Bah là, pareil, tu sens qu'ils ont mis les ronds. Enfin, tu sais qu'ils ont mis les ronds. Ils ont fait plus de pubs pour les ronds qu'ils ont mis que pour que la série. Donc voilà, tu sens qu'ils ont mis les ronds, quoi. Après, pour l'histoire, bah moi je connaissais. Alors, moi je connais pas trop toutes les contes et légendes inachevées. Tout ce qu'est Silmarillion, tout ça, tous les préquels de l'arc des anneaux. Donc forcément, je découvre un peu, quoi. Moi, je me suis laissé emporter, en fait, dans cet univers. Et forcément, la seule critique qu'on peut faire, que les gens font, mais moi qui me dérange pas, c'est que ça commence doucement, évidemment, ça installe à l'univers, quoi. Donc t'as forcément une série chorale avec plein de factions qui, du coup, vivent un élément perturbateur. Qui est le retour éventuel de Sauron sous un autre nom, sous une autre forme, comme dans la communauté de l'anneau, en fait. Et la communauté de l'anneau, le film, mais surtout le livre, il faut s'accrocher, quoi. T'as quand même un bon tiers du livre avant qu'il se passe des péripéties, on va dire. Et là, vraiment, on t'installe toutes les races et tout, quoi. Donc, cette critique-là, en fait, ça dépend. Je peux comprendre qu'on puisse la faire, mais moi, je me laisse emporter. Et même si c'est déséquilibré d'une faction à l'autre, moi, l'air foot, j'en ai un peu rien à foutre. Du coup, pour l'instant, j'attends de voir parce qu'ils ont été abandonnés au dernier épisode. On les a pas vus, donc j'attends de voir un peu ce qui va se passer avec eux. Mais voilà, je suis un peu tout ça. Je suis prudemment optimiste. On pourra en parler plus en détail, mais j'ai trouvé par contre que les deux derniers épisodes, on est au 4, on est au 5 là, je sais plus.
Au 4.
Je continue à suivre avec intérêt, en espérant que ça prenne un peu, quoi.
Mais est-ce qu'on veut pas justement que ça prenne son temps?
On veut que ça prenne son temps, mais on veut être un peu plus engagé. Enfin, moi, j'attends d'être un peu plus pris dans le truc, quoi. Même si je suis pris d'office, hein, comme je vous disais, mais là, j'aimerais bien être pris un peu plus, quoi.
Est-ce que justement, il n'y a pas trop d'intrigue là sur cette série-là par rapport à House of the Dragon, qui en a peut-être pas assez, là, peut-être trop, vu que ça reste assez décousu. Permettre des épisodes de pas avoir tel ou tel personnage.
Ouais, non, moi je trouve pas qu'il y ait trop d'intrigues, je trouve pas qu'il y ait trop de personnages.
Moi je suis pas d'accord, il y a pas trop d'intrigues, mais il y a beaucoup trop de personnages, j'ai du mal à retenir leur nom. Donc déjà, oui, ça veut dire quelque chose.
Ça, ok. Oui, moi aussi j'ai du mal à retenir leur nom, mais tu vois, dans Game of Thrones, dans House of the Dragon, j'ai pas retenu les noms non plus. Hein.
Concentre-toi un peu.
Ouais. Non, moi j'aime bien qu'ils prennent leur temps. Je trouve que c'est bien de prendre le format série pour vraiment installer petit à petit ces enjeux, ces personnages, faire avancer un poil l'intrigue. C'est vrai que on aimerait que ça avance plus vite parce qu'on a l'habitude que dans ce genre de série, ça avance très vite. Et on l'a dit juste avant avec House of the Dragon, ça avance trop vite parfois. Donc là, le fait qu'ils prennent leur temps pour construire leur univers, pour installer leurs personnages et l'intrigue de base, ça me dérange mais absolument pas parce que premièrement, c'est magnifique en effet. La photographie parfois, enfin, je vois pas la différence avec les films parfois. Alors, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à recapter ça et à mettre des ronds. Tu avais raison, Hugo. Vraiment, tu vois la thune. Et deuxièmement, je sais pas, je trouve que les parcours des personnages, tous en mouvement, me satisfont comme ça. On voit qu'il va se passer quelque chose, petit à petit, on avance, on a des révélations, on finit sur des cliffhangers, donc c'est sûr, c'est pas les plus grands cliffhangers de la Terre, mais non, je trouve qu'ils s'installent vraiment dans le format série et... on a l'impression qu'ils sont là pour durer, pour être là longtemps, que la série dure longtemps et que même si ça raconte qu'une guerre, faut bien la raconter. Et du coup, je trouve que pour le moment, en tout cas sur les 4 premiers épisodes, pour moi, le pari est réussi, même si en effet, le 4e est un peu plus faible. Je trouve ça très bon.
Et pourtant, le 4e, je trouve que c'est celui qui raccorde plusieurs intrigues et qui nous permet de passer une certaine bascule pour enclencher la fin de la saison. Alors, je pensais qu'il y en aurait 10, donc je me disais, tiens, c'est dans le 5e que tout va se passer, mais potentiellement, c'est cette fin de saison, d'épisode 4 qui va nous permettre d'accélérer. Et...
mais il est moins visuel.
Mais j'ai quand même des doutes qu'ils arrivent à aller plus vite que ce qu'ils font là maintenant. Mais...
Il est moins visuel, le 4e épisode. Plus, on passe plus de temps avec les personnages en train de discuter, et je pense que du coup, en effet, ça se ressent, parce que dans les précédents épisodes, il y avait quand même des scènes où vraiment on misait à fond sur la photographie, à fond sur la réalisation. À chaque épisode, moi j'ai au moins une scène que je retiens encore, notamment la scène du bateau.
Là, t'as le tsunami quand même.
C'est ça, ce que j'allais dire. Le début de l'épisode 4, il est bien. Hein.
Oui, mais elle est moins percutante, je trouve. Vu que c'est un rêve, voilà. Ouais. Je trouve qu'elle est moins percutante, alors que, ouais, par exemple, dans le deuxième épisode, la scène où les deux hobbits, là, pardon, transportent le monsieur avec des lucioles. Oh là là.
Parle comme Stéphane.
Alors, on n'est que mercredi. Hein. Cette scène est d'une beauté. J'étais subjugué. J'en avais rien à faire de ce qu'elle faisait. Je regardais juste l'image tellement c'était beau. Voilà.
Voilà. J'ai l'impression qu'on parle moins des anneaux de pouvoir que de House of the Dragon, quoi. C'est pas la série watercolor, comme ils disent, hein, la série où t'en parles à la machine à café. Parce qu'en fait, comme on le dit depuis tout à l'heure, ils installent leur univers, donc il n'y a pas de gros points narratifs choquants, de mort de personnages ou de gros mystères qui se mettent en place qui pourront faire parler, quoi.
Mais là, elle est plus communautaire que Game of Thrones, je trouve, hein, parce que les fans de Tolkien, c'est sûr qu'ils la regardent, et les fans de Tolkien, ça court pas les rues, hein. Ils ont beau avoir regardé Lord of the Rings au cinéma, mais je suis pas sûr qu'ils en souviennent vraiment le grand public.
Mais mine de rien, ils arrivent quand même à montrer qu'il va se passer quelque chose de grave, que vraiment tout est en train de se mettre en place. Moi, je pense notamment.
Oui, mais ça fait pas parler, quoi qu'il en soit, la machine à café, hein, comme il dit Hugo.
C'est sûr, mais après, maintenant, il y a plus beaucoup de séries qui font l'unanimité pour qu'on en parle à la machine à café.
Hein. Alors, c'est vrai.
Moi, je parle série avec des amis, mais c'est on a chacun une série en commun, mais on va pas parler tout le temps tous de la même série. Enfin, j'ai l'impression que ça, c'est un peu fini. De ce point de vue-là, mais non, moi c'était là où je voulais en venir, c'était dans l'épisode 3 avec toute la scène où les elfes sont esclaves. C'est là où je me suis dit la série est quand même très forte parce que elle installe un truc qui pourrait durer, et finalement elle le clôt assez vite. Et en fait, ils sont quand même dans le mouvement, il se passe quand même des choses. C'est juste qu'il se passe pas ce qu'on attend. Comme l'a dit Hugo, ça s'appelle les anneaux de pouvoir, mais pour le moment on les voit pas. Moi j'aime bien ça, en fait, de prendre mes attentes à l'envers et de dire calmez-vous les gars, ça va arriver, mais on a certaines étapes à pas brûler avant, quoi.
Puis si c'est pour que les gens soient déçus.
Oui.
Sur les attentes, on les connaît, hein, mais il y a quand même. Oui. Avant, les séries n'étaient pas du tout basées sur des attentes. Et maintenant, je trouve qu'on en fait de plus en plus sur les attentes et c'est un peu à double tranchant.
Ah, c'est là où c'est super intelligent, vu toute la com qu'ils ont faite et vu que c'est le Seigneur des Anneaux en série, ne pas plonger tête la première dans la mythologie qu'on connaît tous, je trouve que c'est quand même judicieux.
Bah, vous dites ça alors qu'il y avait des attentes et la série, elle se prend des tombereaux d'insultes à cause du casting des personnages, quoi. Enfin,
Tu parles du racisme.
Des racistes.
Ah oui, oui.
Bah, Galadriel, elle ressemble à Kate Blanchett. Donc, déjà, je vois pas en quoi. Et tous les autres, ils existaient pas. Donc, déjà, je sais pas.
Si tu sais pas, tu te tais, Stéphane.
Non, mais après, voilà, pour finir, il y a notamment une scène sur le dernier épisode là, de Galadriel dans sa prison là, qui a un peu fait parler. Alors, qui a fait parler les gros mascus parce que voilà, Galadriel n'est pas censée. Mais surtout, on s'en fout de ça, mais la réalisation, quoi, tout est en hors champ. Et en fait, tu la vois maîtriser trois gardes. Et tu vois rien du tout, quoi. Et donc t'as l'impression qu'il y a une espèce de paresse de mise en scène qui se met en place, on va dire, sur l'action. Donc j'espère que c'était juste une mauvaise étape, quoi. Tu vois, un faux pas, quoi.
Comme l'a dit Maxime avec la scène quand les elfes sont esclaves dans l'épisode 3, je trouve pas que c'est une paresse. C'est juste qu'on en avait rien à foutre qu'elle maîtrise trois gardes et qu'elle les fout en tôle, quoi.
C'est peut-être juste un choix de mise en scène un peu malheureux. Ils se sont dit, on va le faire comme ça, ce sera plus.
Tu trouves ça malheureux, toi?
Non, pas nécessairement. Moi, ça m'a pas particulièrement choqué, mais je veux dire, le fait que Hugo le ressente comme ça, c'est.
Parce que c'est un mascu, il veut pas le dire.
Non, mais c'est pas une guerrière normalement.
C'est en effet peut-être parce qu'on a changé de réalisateur et que le réalisateur essaye de mettre sa patte, et notamment sur les scènes de violence. Mais je suis pas sûr que ce soit une question d'économie.
Elle est ralentie sur son cheval. Merci.
C'était très.
J'ai pas compris. Alors, j'ai loupé quelque chose. Il y a un truc avec, il y a un truc avec le personnage et un cheval. J'en sais rien, mais j'ai trouvé ça très long et.
C'est très Wonder Woman, quoi.
Oui, en plus.
C'était genre.
D'ailleurs, pour vous, c'est qui le géant là ?
Sauron.
C'est Sauron ?
Ah non, mais il y a plein d'hypothèses.
Tout le monde dit que c'est Gandalf, mais non.
Ouais, c'est moi aussi, on m'a parlé de Gandalf et je sais
ça
pas.
Serait trop simple.
Ça me décevrait. Non, pas que j'aimerais pas revoir le personnage plus tard dans d'autres circonstances, mais là, comme ça, que ce soit lui et qu'en fait le focus, la révélation de qui cette personne est, soit un personnage qu'on connaisse déjà. Je sais pas, je serais un peu déçu, je pense.
C'est peut-être Voldemort.
Ah, ça, c'est très top.
Si on comparait les deux, les Anneaux de Pouvoir s'en sort un peu mieux côté personnage, côté intrigue, côté réel.
Côté tout.
On est un peu plus enjoué.
Ouais, la réelle, quand même, la réelle de House of the Dragon. En fait, la réelle de House of the Dragon, tu sens qu'il y a eu le Covid, qui du coup, il filme beaucoup plus sur fond vert.
Ah ouais.
Il filme moins en location. Ouais, notamment à l'arrivée, sur le dernier épisode, là. Et même en fait sur les premiers où ils sont dans le je sais plus avec les enfin bref où ils s'échangent l'œuf de dragon là tu vois qu'en fait bon après la scène est belle, la scène au niveau du compositing c'est bien, mais tu sens qu'il y a quand même du bon fond vert alors qu'avant ils filmaient en Croatie, là ils ont pas pu forcément le faire tout le temps, donc tu sens un peu que c'est beaucoup en intérieur forcément parce que c'est un soap et qu'il y a moins, alors il va venir un peu peut-être souffle épique dans la réalisation.
Il y a tout le monde qui se dit ouais les prochains épisodes, les deux prochains c'est Sapochnik qui va les réaliser donc ça va être trop bien et tout
je suis d'accord, moi je trouve que les scènes elles sont assez vides, ça manque de. Enfin, il tourne beaucoup dans des décors, pas dans des décors, mais sur des paysages vides et il n'y a pas de personnages en plus. Enfin, ça m'a particulièrement choqué sur le dernier.
Il n'y a pas grand monde, en effet.
Alors que dans. Quand
il y a un monde qui fourmille, en effet, c'est vraiment très restreint.
Mais
c'est
dans Game of Thrones, on avait beaucoup de plans sur King's Landing ou sur Winterfell. Enfin, il y avait toujours ce truc de les personnages ne sont pas tout seuls, il y a vraiment des peuples. Autour. Là, je trouve que ça se ressent moins. On a la scène du mariage avec tous ces invités, mais c'est quand même c'est pas pareil.
Ouais. T'as quand même l'épisode d'avant où ils vont dans les rues de King's Landing et tout.
Tu vas au bordel.
Ouais, mais
il y avait du monde dans le bordel.
Oui, mais non, mais tu vois les rues, tu vois l'ambiance. Il y a quelques plans larges et tout, mais enfin, ouais, ils essaient quand même, tu vois.
Ouais, mais je crois que c'est la seule scène où vraiment ils vont dans la rue, où vraiment on voit l'extérieur. C'est justement moi aussi, elle m'a
ils vont dans la forêt aussi.
Oui, mais dans la forêt, il n'y a pas une ville.
Il y avait des ours et des rennes blancs. Ouais. Enfin, des cerfs blancs.
Si vous n'avez rien d'autre à rajouter, on attendra donc fin octobre. Si. Ah oui, vas-y, évidemment.
Vivement Willow. Allez, bim.
C'est vrai, je t'avoue que c'est la seule qui m'intéresse parce que je trouve que c'est un peu plus léger, un peu plus grand public et je trouve un peu plus merveilleux. Donc j'attends beaucoup Willow. Ouais.
Mais c'est ça la fantasy qu'on veut voir à la télé. C'est pas les autres là.
C'est pas des oncles qui couchent avec leur, leur dragon. En tout cas, on se donne rendez-vous fin octobre pour tirer le bilan de ces deux séries. D'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts, évidemment, et du sang aura coulé aussi. Merci Stéphane, prends un petit jus d'orange, hein. Prends des vitamines, ça ira mieux.
Oui, je vous remercie.
Merci au roi Maximus.
Mais de rien.
Et merci à l'orque Hugo. Et on se retrouve pour une prochaine émission sur le causeur sur tous les réseaux et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser un petit mot sur toutes les plateformes et des mots gentils, comme le dernier qu'on a eu. Merci à tous.
J'espère qu'il ne réécoute pas le monsieur.